En colloque. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la formation du système solaire, c'était le thème du colloque de l'Académie des sciences qui s'est déroulé en février 2007, réunissant académiciens, astrophysiciens, géophysiciens, car bien des réponses échappent encore à nos scientifiques. Après nous être intéressés au contexte astrophysique de la naissance du système solaire dans une première retransmission, évoquons dans cette deuxième partie l'évolution de la nébuleuse protosolaire du gaz au premier grain. François Robert du Muséum National d'Histoire Naturelle intervient sur le thème de la matière organique des météorites. Gérard Manès de l'Institut de Physique du Globe de Paris interroge le temps et réalise une chronologie à l'aide des radioactivités de courte et longue période. Enfin, Anne Dutray revient sur la durée de vie des disques autour des étoiles jeunes. Mais commençons auparavant par la communication de Guy Libourel, directeur de recherche au Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique, professeur à l'École Nationale Supérieure de Géologie. Quelle est l'origine des premiers solides dans la nébuleuse? Explication de Guy Libourel.
Donc effectivement, je voudrais vous parler de la formation des premiers solides dans le système solaire. Et un peu paradoxalement, je voudrais m'en éloigner pour vous montrer ce que les télescopes sont capables de faire dans leurs sondes des milieux stellaires lointains. Et pour ceux qui connaissent pas, ici on a des bandes à 10 microns, c'est-à-dire la détection de silicates, ou non d'ailleurs, dans ces disques protoplanétaires. Bref, même si on est très loin, on est capable d'avoir donc une minéralogie ou plus prosaïquement de faire de l'astrominéralogie. Donc sans dévoiler l'exposé d'Anne Dutray, en fait on a une information minéralogique sur des milieux lointains. La question à laquelle je voudrais essayer de répondre ici, c'est quid du système solaire? Quels sont les premiers solides et comment se sont-ils formés, ou quelles sont les idées qu'on en a à l'heure actuelle? Alors, en fait, on bénéficie de quelque chose qui est assez intéressant, c'est le dérèglement de la mécanique céleste qui permet à la Terre d'échantillonner des matériaux extraterrestres. Ici, on voit donc en 1492 cette météorite d'Ensisheim, et ce qui veut dire, comme l'avait indiqué Marc Chaussidon, qu'on a dans nos tiroirs des musées donc des échantillons qui se sont formés lorsque le Soleil était jeune et lorsque les planètes n'étaient pas formées. Et en fait, ces matériaux, on les appelle donc des météorites dites non différenciées ou primitives. Leur doux nom, c'est des chondrites, et voilà ce que je voudrais vous présenter. Alors, ces chondrites primitives, donc elles sont constituées d'un mélange de différents constituants. J'en ai énuméré quatre par simplification. Donc, les inclusions réfractaires, les chondres du métal et de la matrice, et je voudrais vous montrer ici à quoi ressemblent ces différents objets. Alors, tout d'abord, les inclusions réfractaires, donc on les a abondamment vues dans la première partie. À quoi correspondent-elles? Eh bien, les voici. Sur la météorite d'Allende, on voit ici des inclusions dites blanches, qui sont caractérisées par une minéralogie extrêmement spéciale, peu terrestre, je vais dire, avec des phases telles que du corindon, des pérovskites, des aluminates de calcium, des spinels, etc. Donc une minéralogie très particulière. En voici donc des zooms où on voit ici donc ces inclusions réfractaires. Donc inclusion réfractaire, c'est enrichi en calcium et en aluminium. Effectivement, on voit ici du corindon. Pour les géologues, je pense que ça parlera. Ici, des aluminates de calcium, donc une ibonite et une grossite. Et voyez ici une texture extrêmement complexe où on a donc encore une fois des spinels, des pérovskites, des mélilites. Un autre exemple de ces inclusions réfractaires avec ici des petits objets qui sont 20-30 microns et qui contiennent donc des phases grossites, spinels, pérovskites, mélilites, une minéralogie très particulière. La deuxième partie ou le deuxième constituant de ces chondrites est ce qu'on appelle les chondres. Donc ça, on en a parlé aussi dans la première partie. Il s'agit de petites sphères ignées que l'on trouve uniquement dans ces météorites, qui donnent d'ailleurs le nom à chondrite. Et en fait, on voit ici, en microscope électronique à balayage, une section où on voit des tailles différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, des textures qui sont différentes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette panoplie des chondrites, eh bien, on a des variations de proportion de ces chondres qui varient. En fait, si je regarde un peu plus en détail, donc un chondre, eh bien, c'est une petite sphère ignée, c'est-à-dire qui est passée à haute température, qui contient du verre, donc qui est passé par un stade de fusion totale ou partielle, et qui contient des minéraux cardinaux qu'on connaît très bien dans notre manteau terrestre, des olivines, des pyroxènes. Une particularité toutefois, c'est la présence de métal, et comme ça avait été signalé par Claude Allègre, donc des compositions nécessairement réductrices. Enfin, ces objets sont liés entre eux par une matrice qui est fine. Donc on est obligé de la regarder au microscope, par exemple électronique à balayage ou à transmission. Et voici ce que ça donne, c'est-à-dire on voit pas grand-chose, mais en fait on reconnaît pour des experts donc des silicates amorphes, des sulfures ou du fer, et même de la matière carbonée. Et ça c'est pour tendre la perche à François qui va prendre la parole juste après, il vous parlera de ceci. Alors en fait, voilà ce que l'on voit dans ces météorites. Et en fait, comment expliquer la formation de ces objets? Eh bien, très tôt, on s'est aperçu qu'avec la variation radiale de paramètres tels que la température ou la pression, eh bien, on pouvait envisager la formation de ces objets par des réactions gaz solides ou des condensations gaz solides, c'est-à-dire la formation de ces objets par une cristallisation à partir d'une phase vapeur ou une phase gazeuse, bien sûr primordiale. Alors, ça a été dit préalablement par Claude Allègre. En fait, le raisonnement a été théorique. Et donc, ça, c'est pardon, une illustration pour vous montrer la condensation telle qu'elle peut être donc en hiver. Donc, en fait, l'idée, c'est comment aborder cette condensation. Donc, ça a été abordé d'un point de vue théorique, donc par le truchement de la thermodynamique. On se donne donc la composition du Soleil avec la photosphère solaire ou donnée par les chondrites, c'est la composition du Soleil. On écrit des équations, par exemple, de cristallisation ici de l'olivine. Je passe sur les détails, fixe des conditions de P et de T, et on regarde quel est le champ de stabilité de cette phase. Thermodynamiquement, ça se dit par la minimisation de l'énergie libre. On essaie de regarder quand le delta G de cette réaction est négatif. Alors bien sûr, si je fais ça uniquement que sur une phase, c'est peu instructif puisque je vais avoir uniquement que l'olivine. Je suis obligé d'avoir un traitement qui prend en compte donc énormément d'espèces et énormément de phases cristallisées. Et voilà la grande difficulté, c'est comment généraliser ce type d'approche. Alors ceci a été fait par le groupe de Chicago, donc notamment Grossman et Ebel, qui se sont attelés à cette tâche gigantesque et qui produisent maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail, donc des codes de calcul, donc de condensation, qui prennent en compte une quantité pas astronomique mais relativement importante d'espèces gazeuses, de minéraux. Ils prennent en compte des solutions solides. Ils modélisent les liquides avec ce que l'on doit, c'est-à-dire en prenant en compte les activités. C'est le modèle de Giorso de Melk. Bref, il y a une simulation numérique qui est relativement importante. Alors voilà, pour fixer les idées, les phases, on n'y voit rien, mais c'est fait exprès. Donc les phases qui sont prises en compte, et ici les solutions solides, donc les solutions d'olivine, de pyroxène, de mélilite, bref, toutes les phases cardinales. Et ceci permet d'avoir, donc on l'a vu, hein, le delta V de la réaction est extrêmement importante, on passe de gaz à des solides, donc on a une forte, avec Clapeyron, on a une forte dépendance donc à la pression, et c'est ce qu'on voit dans ce diagramme, où on est capable de résoudre donc les champs de stabilité de chacune des phases. Et voilà ce qu'on appelle la séquence de condensation à l'équilibre. Donc on reconnaît le courant non qui sont les têtes de condensation, c'est-à-dire relativement réfractaires, et puis pour les parties basses, donc des phases comme le fer ou les qui seraient plutôt à basse température, et puis bien sûr la séquence continue. Donc ce que l'on fait, c'est des diagrammes qui sont pas faciles à manipuler, donc ce que l'on fait le plus souvent, c'est on fait des diagrammes, des sections isobares, on coupe ce diagramme, je l'ai fait pour vous à 10-3 bars, et en fait voici ce que ça donne, et on a ici une vision de la séquence de condensation en détail qui avait été abordée dans le premier exposé, donc avec son détail, et de voir successivement l'ensemble des phases qui peuvent cristalliser quand on refroidit un gaz de composition solaire dans ces conditions. Alors, la première des choses qui saute aux yeux, c'est que, effectivement, on est capable de reproduire, donc, des oxydes tels que le corundum ou des aluminates, voire des silicates calciques alumineux. Je pense que c'est marqué dans mon projet transparent. En fait, ces séquences de condensation permettent de rendre compte de la minéralogie, si complexe soit-elle, des CAI et des inclusions réfractaires. Donc voici une des grandes découvertes qui a été faite dans les années 77 par Larimer et Grossman. En fait, qu'on était capable de reproduire cette séquence de condensation, au moins pour les CAI. Certains sont allés à pousser le bouchon un petit peu plus loin en disant que si on regarde un peu plus bas, eh bien, on touche des phases telles que l'olivine ou le fer métal. Et ces phases, eh bien, c'est ni plus ni moins que celles que l'on voit dans les chondres. Et en fait, on avait ici une explication sur la cristallisation d'olivine de métal, toujours par ces séquences de condensation. Si on descend encore un petit peu plus bas, eh bien, en fait, on va toucher des phases de plus basse champ de stabilité, par exemple des sulfures de fer que l'on a vu dans les matrices. Alors, cette séquence de condensation, donc sa forme théorique, a eu beaucoup de succès puisqu'elle permet de rendre compte, en fait, très vite dit ici, eh bien, la composition chimique ou la nature chimique des premiers solides du système solaire. Elle permet aussi d'avoir une vision globale ou d'expliquer la dichotomie des systèmes planétaires avec donc des planètes telluriques silicatées et des planètes géantes plutôt gazeuses, tout simplement par le cheminement de cette séquence de condensation. Plus je suis froid, plus j'aurai à condenser des phases de basse température telles que les glaces. Et en fait, l'ensemble de ces résultats, je les ai remis ici en petit, sur les chondres ou sur les CAI, permettent de donner des conditions donc de pression, de température, de conditions réductrices, etc., qui vont forger des modèles pour essayer de rendre compte, c'est ce que qu'ont dit les collègues préalablement, pour dire par exemple que les CAI peuvent se former uniquement que très proche du Soleil, puisqu'on a besoin de haute température, alors que les chondres, eux, peuvent se former à des distances un petit peu plus éloignées. Donc en fait, voilà l'intérêt de cette séquence de condensation ou de cette approche thermodynamique. Elle n'est pas parfaite, mais elle permet de rendre compte donc des conditions qui prévalaient au moment de la formation donc de ces objets dans le disque protoplanétaire. Donc, est-ce qu'on est content avec ceci? Eh bien, une façon de le tester, c'est de prendre le cheminement dans ce diagramme qui est un peu compliqué, de prendre le cheminement de la séquence de condensation à l'équilibre, ici le parcours gris, et de reporter l'ensemble des compositions, des CAI, des chondres, et c'est tous les petits points, là je ne vais pas les expliquer. Et en fait, on s'aperçoit que en fait, le résultat n'est pas satisfaisant, et pas satisfaisant du tout, dans la mesure où si on arrive par bribes à reproduire quelques textures qu'on observe dans les CAI, ou telles que quelques minéraux, on ne reproduit absolument pas l'ensemble de la composition que l'on voit, c'est-à-dire des CAI, aux chondres, etc. Donc en fait, l'accord n'est pas parfait, et donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ce faire, donc, il faut aller un petit peu plus loin, et je voudrais vous entretenir de ça maintenant. Alors, comment aller plus loin? Eh bien, l'idée, c'est de simuler au laboratoire cette nébuleuse protosolaire, c'est-à-dire de fabriquer au laboratoire un gaz de composition solaire et de le condenser. Alors le défi n'est pas mince puisqu'il s'agit de pressions qui sont relativement basses et de températures qui sont hautes avec des gaz qui sont réfractaires. Alors plusieurs laboratoires s'y sont essayés. Je vous représente ici le protocole expérimental du NASA Goddard Space Center, donc qui est par Joe Knoot, où en fait ici il a une chambre de condensation où il reproduit donc avec des gaz qu'il injecte. Donc un milieu plus ou moins chaud, et il reproduit ici des particules, les analysant et les compare avec les objets que je vous ai décrits préalablement. Donc on s'est attaché à ça, nous, à Nancy, et on a essayé de fabriquer de façon bien pompeuse un nébulotron, donc essayer de simuler, de représenter la nébuleuse protosolaire. Donc voici ce nébulotron de façon très schématique. Donc pour faire le gaz de composition solaire, donc c'est pas facile, et donc on a utilisé l'artifice suivant, c'est que pour faire un gaz de composition solaire, on fait un verre de composition solaire qu'on ablate avec un laser, donc on fait un plume de plasma. Ce plume de plasma est dirigé dans un four ici qui est chauffé, dont on contrôle préférentiellement la température. On thermalise donc ce plasma, et c'est ici que se fait la condensation à température, pression, composition, on contrôle tous les paramètres de façon indépendante. Donc ce type d'appareillage permet de simuler des environnements stellaires, y compris, donc, bien sûr, notre système solaire. Alors, voici de façon très brève ce que l'on peut faire, c'est-à-dire qu'on est capable donc de séquentiellement produire des phases donc à conditions paramètres intensifs contrôlés. Et voici un panégyrique de quelques-unes de ces phases où on voit des mélilites, des dioxydes alumineux, des forstérides, des mélilites, des spinels, des corundons, autant de minéraux que j'ai déjà énumérés dans les CAI. L'autre chose aussi qui est importante de remarquer, c'est que alors qu'on fait une condensation gaz solide, on peut s'apercevoir aussi sur ces clichés de diffraction, c'est que toutes ces phases sont cristallisées. Donc en fait, voici la première condensation haute température d'un gaz de composition solaire. Et voici l'intérêt pour nous, c'est que à la séquence théorique que je vous ai montrée préalablement, on peut substituer, bien sûr, c'est pas parfait, une séquence expérimentale qui permet de reproduire cette fois donc ce que l'on voit donc dans ces environnements dont on contrôle tous les paramètres. La chose qui est très intéressante, et ça avait été dit d'un mot par Claude Allègre, c'est que ici on est obligé d'imaginer des conditions d'équilibre. Or en fait ici, on est capable de prendre en compte un paramètre qui est extrêmement important, c'est la réactivité, en fait, l'influence de la cinétique, la vitesse à laquelle les phases se forment ou se déforment. Donc à ce moment-là, on a ici un outil très intéressant pour aborder la chimie et la minéralogie de ces premiers solides du système solaire. La deuxième approche que je voudrais mettre en exergue, c'est tout simplement réétudier les premiers solides de ce système solaire. Et je voudrais prendre l'exemple des condres. Donc, voilà ces objets, donc très abondants. C'est eux qui définissent, en gros, la composition des chondrites. Jusqu'alors, on imagine que ces objets se sont formés à partir d'une fusion très rapide de grains relativement fins qui, vraisemblablement, ou très vraisemblablement, ont pu être obtenus par un phénomène de condensation. Donc en fait, voilà, ça c'est ce qui est communément admis. Et en fait, voici les observations que nous avons faites très récemment. Donc en fait, qu'on revient sur ces objets, voici des chondres, donc avec des olivines, du métal, des phases vitreuses, des orthopyroxènes, que des choses normales dans les chondres. Donc le voici, le même chondre ici, dans une chondrite CV de Vigarano. En fait, on revoit le métal, les olivines. Et en fait, ce que l'on voit ici, donc c'est au microscope, tout simplement en lumière transmise, et en fait je passe en lumière analysée, et en fait ce que je vois pour les spécialistes, c'est que en fait les olivines ici, je vais vous le montrer sur une autre, les olivines ici et le métal sont en contact les uns avec les autres, sans liquide silicaté, sans verre, c'est-à-dire qu'en fait on a de magnifiques textures ici, que l'on qualifiait dans notre jargon de texture à joint triple, donc sans verre, entre les olivines, j'insiste, et le métal, qui correspondent à l'identique à ce que l'on connaît très bien sur la Terre, par exemple le manteau terrestre. Voici du manteau terrestre, où on reconnaît ici les mêmes textures à joint triple. Ça, c'est des olivines. Ça, c'est sur mes chondres, donc extraterrestres. Donc, en fait, l'idée, elle est très simple. C'est qu'en fait, ces textures à joint triple ne peuvent pas être obtenues dans la nébuleuse protosolaire. On est obligé d'avoir des conditions de pression, et très vraisemblablement, ce que l'on voit ici correspond à des petits bouts de planétésimaux qui ont été fabriqués donc dans des corps différenciés. Donc en fait, voici le scénario que l'on propose, c'est que on imagine qu'on a eu donc des petits bouts de planètes ou d'embryons de planètes qui ont été fragmentés, les voici, qui volaient dans la nébuleuse protosolaire. Ils se sont poudrés avec du gaz et des poussières, très vraisemblablement, peut-être obtenues par des phénomènes de condensation dont j'ai parlé. Une onde de choc est passée par là, a élevé soudainement la température, a commencé à produire une fusion partielle de ces objets. À ce moment-là, les olivines commencent à se résorber, et je commence à cristalliser des phases, elles, qui sont en équilibre avec ce liquide. Puis, l'interaction progresse. La résorption de ces olivines progresse, les phases qui doivent cristalliser parce que la saturation cristallise, par exemple les orthopyroxènes, pour arriver à des textures telles qu'on les observe de façon très schématique ici, dans les chondres, avec des olivines qui baignent dans des liquides, qui sont associées avec des orthopyroxènes, mais bien sûr, rien de tout ça est à l'équilibre, les olivines dériveraient de planétésimaux. Donc voici la conclusion, et voici ce que je voulais laisser comme message, c'est que bien sûr on a des idées, bien sûr on a par exemple une idée sur la formation des chondres, et en fait l'idée que l'on développe ici, c'est de dire qu'en fait ces objets sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'avait imaginé. Ils ont une part qui est très vraisemblablement héritée de planétésimaux, c'est-à-dire deux petits bouts de planètes différenciés. Par contre, une autre part est vraisemblablement en équilibre avec la nébuleuse protosolaire et qui donnerait naissance à les phases, aux phases orthopyroxènes, liquides, quartz, etc. Donc, si cette assertion est vraie, eh bien, cela veut dire que les condres, donc, sont pas aussi simples qu'on l'avait vu. Donc, ils contiennent des matériaux à la fois nébulaires et astéroïdaux et que, assurément, les matériaux astéroïdaux prédatent donc le matériau nébulaire et donc on a vraiment une génération de planétésimaux antérieure à la formation des condres. Si cette hypothèse est vraie, eh bien on a ici donc les premiers bouts, les premiers embryons de planétésimaux qui se sont formés dans le système solaire et qui bien sûr donc jettent peut-être les bases d'une réflexion sur la formation de planétésimaux vis-à-vis des condres. Enfin, les planétésimaux pourraient être antérieurs aux condres. Et pour finir totalement, donc mettant encore une fois en question l'histoire très très primitive du système solaire, avec des phénomènes de différenciation qui pourraient arriver avant la formation des condres et peut-être être synchrone ou très 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 proche de la formation des objets les plus anciens du système solaire, ceux qui datent actuellement le système solaire, à savoir les inclusions réfractaires.
Vous venez d'entendre Guili Bourrel du Centre de Recherche Pétrographique et Géochimique. Il s'exprimait sur les condres et les chondrites. Poursuivons sur notre lancée des météorites et intéressons-nous à ce qu'elles peuvent receler de matière organique en compagnie de François Robert, directeur du laboratoire d'études des matériaux extraterrestres au Muséum National d'Histoire Naturelle.
Donc là, je vais vous emmener dans une discipline qui, en règle générale, ne vous est pas familière. C'est la structure moléculaire des molécules organiques. Et en plus, là, il va s'agir de structures tout à fait particulières. Il n'y a pas d'équivalent dans les roches terrestres, puisqu'il s'agit de la matière organique insoluble que l'on trouve dans les météorites, et spécialement dans les météorites carbonées. Alors, je ne vais pas vous parler des résultats analytiques. Hein. C'est un topo qui a été établi sur la base d'une dizaine d'années de mesures qu'on a faites et qui nous ont permis de proposer, comme je vais vous le montrer, une structure moléculaire de cette matière organique insoluble. Alors pourquoi c'est important d'établir cette structure moléculaire ? Parce qu'on va la regarder dans tous les détails et on va apprendre des choses sur la façon dont cette matière organique s'est fabriquée. Et c'est un exercice donc qu'on a fait au cours de toutes ces années et que je vais refaire devant vous. Donc d'abord quelques définitions hein, pour vous rappeler que les grandes structures du carbone, l'architecture du carbone dans une matière comme ça, généralement on distingue les aliphatiques, c'est-à-dire le carbone est sous forme de chaîne, on le représente par cette ligne brisée qui est ici, donc on n'indique pas les hydrogènes ou les carbones, hein, les carbones sont au sommet des lignes brisées, une ligne comme ça se termine évidemment par un CH3, donc vous avez deux CH3 et les CH2 sont intermédiaires. Les aromatiques, ben évidemment, le carbone est sous forme cyclique. Et là aussi, dans la représentation, on ne représente pas les hydrogènes. Quand on associe deux aromatiques, on a ici des carbones qui sont non protonés. J'utilise tous ces mots exprès parce que je vais après les utiliser dans l'exposé. Et évidemment, vous pouvez aussi associer des aromatiques et des aliphatiques comme vous voyez ici. Et là aussi, on ne représente pas nécessairement les CH3 ou les CH2. Je vous rappelle aussi qu'il y a des isomères. Il y a des isomères aux aliphatiques et des isomères aux aromatiques. Ils sont représentés ici. Quand il y a beaucoup d'isomères aux aliphatiques, on dit que ces aliphatiques sont ramifiés. Quand il y a beaucoup d'isomères aux aromatiques, on dit que ces aromatiques sont substitués. Donc là aussi, c'est des mots que je vais employer. Je vais essayer de pas trop les employer, mais enfin, si je les emploie, au moins, vous saurez à peu près de quoi il s'agit. Donc la structure moléculaire. Alors la structure moléculaire, elle est établie sur la base de techniques analytiques qui sont ici. La technique REN, c'est probablement quand même celle qui nous donne le plus d'informations, c'est la RMN du carbone 13. Et ça nous a permis de définir tous ces paramètres. Donc on a mesuré, par exemple, le rapport de liaison CH3 par rapport au carbone total. On sait aussi le nombre de CH2 par rapport au CH3. On sait le nombre de carbones non protonés par rapport aux protonés. On sait le nombre total de cycles par rapport... Voilà, donc c'est sur la base de tous ces paramètres et évidemment de l'analyse chimique que l'on peut espérer, comme un puzzle, reconstituer la structure moléculaire de cette matière organique insoluble. Donc ce n'est pas merveilleux, voilà à peu près ce que ça donne. C'est évidemment une représentation statistique. Ce n'est pas un dessin d'imagination. C'est un dessin qui respecte toutes les mesures que l'on a obtenues depuis une dizaine d'années à partir des techniques analytiques que je viens juste de vous montrer. pour vous persuader qu'on a essayé de faire le mieux possible. Ça, c'est les écarts entre tous ces paramètres, les écarts entre le modèle et ce qui est mesuré. Donc, dans le dessin que je vous ai montré, vous voyez ici que, par exemple, le paramètre 6, qui est le soufre sous forme de thiophène par rapport au soufre sous forme d'azimatique, eh bien, est quasiment reproduit parfaitement par le modèle. Et vous voyez qu'à 20% près, on reproduit l'ensemble des données. Donc, c'est sur la base donc de cette structure moléculaire qu'on va maintenant regarder et qu'on va apprendre des choses sur la façon dont elle s'est fabriquée. Donc, la voilà de nouveau, et on va regarder des zones, on va regarder des endroits précis, et on va les regarder en détail. Alors, regardons ce détail. Ici, vous avez d'abord les chaînes. Vous voyez, ces chaînes-là, elles sont courtes, elles sont très ramifiées, et elles ont des rapports CH2 sur CH3 qui sont voisins de 2. Et ça, c'est une chose qui existe en astronomie depuis toujours, enfin depuis une vingtaine d'années, la première fois qu'on l'a observé, c'est le spectre infrarouge autour de 3,3 microns. Ici, vous avez un épaulement, un aspect bimodal, qui est la signature des CH2 et des CH3. Et là aussi, vous avez un rapport CH2 sur CH3 qui est environ de 3,5, donc quelque chose qui est près de 2, et on l'observe partout. On l'observe dans la galaxie, on l'observe dans d'autres galaxies, et on l'observe aussi dans la matière organique des météorites que vous avez ici en bleu. Et donc, ce rapport pose encore beaucoup de problèmes dans la littérature astronomique, et on le comprend très bien à partir des données qu'on a sur la RMN. J'ai pris un exemple ici pour vous montrer comment on pouvait converger vers un rapport comme celui-là, c'est-à-dire un rapport un peu inférieur à 2. C'est simplement parce que vous êtes capable de construire, c'est ce qu'il y a écrit ici, de construire toute la distribution statistique des isomères. Donc si vous distribuez de façon statistique tous les isomères possibles de courtes chaînes aliphatiques, vous convergez vers un rapport CH2 sur CH3 qui est toujours autour de 1,5 plus ou moins 0,1. Donc en fait, ça n'a rien de mystérieux, c'est un rapport qui est effectivement universel, qu'on observe dans tous les nuages de la galaxie, qu'on observe dans le système solaire. Ça ne traduit le fait que le carbone organique est distribué de façon statistique au moment de sa formation. Alors on pourrait aussi se poser la question pourquoi les chaînes sont si courtes. Vous savez qu'en biologie, dans la matière vivante, les chaînes sont longues. Très vraisemblablement, parce qu'en phase gazeuse, les chaînes ont une tendance naturelle à se cycliser. C'est une chose qu'on a reproduit en laboratoire. À passer 10 carbones, 12 carbones, spontanément, les chaînes se ferment. Et si vous fermez des chaînes comme celles que j'ai représentées ici, qui contiennent beaucoup d'isomères, eh bien, vous obtenez des cycles qui sont très substitués. Donc on reproduit au moins qualitativement, par ces expériences de laboratoire, ce qu'on observe dans les météorites, c'est-à-dire des chaînes qui sont courtes, qui sont ramifiées, et des aromatiques qui sont peu nombreux et très substitués. Donc regardons maintenant un autre endroit, on va regarder le centre de cette matière organique insoluble, et vous voyez ici le nombre de ces massifs aromatiques. Là, vous en avez 4, là vous en avez 3 à 7, là vous en avez 3, là vous en avez 4. Voyez, vous en avez l'idée, le message de cette observation, c'est que ces unités aromatiques, ces massifs, sont très petits. Il n'y en a pas beaucoup, et il y en a certainement beaucoup moins que ceux qu'on observe dans le milieu interstellaire. On les observe dans le milieu interstellaire par des techniques de spectroscopie, et typiquement, ce que nous disent les astrophysiciens, c'est que dans le milieu interstellaire, vous avez c'est des grains qui font entre 60 et 150 carbones. J'ai représenté ici un massif aromatique typique de grains du milieu interstellaire. Dans les météorites, les massifs sont beaucoup plus petits. Ce sont des mesures, une fois de plus. Donc ici, j'ai représenté la distribution statistique, c'est-à-dire le nombre cumulé de ces massifs aromatiques, en fonction de leur diamètre. Vous voyez, ici, vous avez une distribution ici que vous pouvez comparer avec, on n'a pas beaucoup de points dans le cas du milieu interstellaire, mais que vous pouvez comparer au milieu interstellaire. Vous avez ici un gap, c'est-à-dire que le carbone organique du milieu interstellaire est forme de beaucoup plus grandes structures aromatiques. Pour interpréter ceci, c'est probablement le résultat de la photodissociation. Les cycles aromatiques sont très sensibles à la photodissociation UV, et ici on a modélisé à la surface d'un disque autour d'une étoile Tétaori, donc c'est un disque qui est illuminé, dont la surface est illuminée par des rayons ultraviolets, donc qui dissocient la matière, et vous avez une compétition entre la photodestruction UV et l'accrétion, c'est-à-dire la vitesse de condensation. Pourquoi la vitesse de condensation devient de plus en plus grande? Parce que la densité, c'est-à-dire la pression, croît progressivement de l'extérieur du disque vers l'intérieur, vers la zone centrale du disque. Et vous avez un endroit où la vitesse de destruction est compensée par la vitesse d'accrétion. En d'autres termes, vous protégez vos grains, vous protégez vos aromatiques, vous les condensez sur des grains plus vite que vous ne pouvez les photodissocier. Donc vous voyez, on a appris quelque chose qui apparemment ne se produit pas dans le milieu interstellaire, qui est beaucoup plus diffus et qui photodissocie, qui détruit les petites molécules. Ces petites molécules sont préservées au moment de la formation du système solaire. Alors regardons un autre endroit, j'ai pris cet endroit là-haut. Là, ici, on regarde ce qu'on appelle les hétéroéléments. L'oxygène, le soufre, l'azote. Alors l'oxygène et le soufre, il y en a la plupart, ce qu'on détecte, on les détecte dans les chaînes. Ça, c'est la signature d'une oxydation. Donc vraisemblablement, c'est une matière qui a été oxydée, probablement à la surface ou dans le corps parent. On sait qu'il y a du liquide, de l'eau, et des gaz probablement sulfurés qui ont circulé dans ces corps parents et qui ont oxydé la matière organique. C'est une hypothèse, hein, c'est pas la seule, mais enfin on voit quand même que cette matière organique a subi une oxydation secondaire. Ce qui est important aussi, c'est l'azote. L'azote, on ne le détecte que dans les pyrroles, c'est-à-dire dans les cycles aromatiques ou dans les nitriles. Donc il n'y a pas de trace de précurseur de ce qu'on appelle les molécules prébiotiques. On ne peut pas hydrolyser une matière comme ça et produire des acides aminés. Alors c'est important parce que des acides aminés, il y en a dans les météorites, et très clairement, ce polymère organique insoluble ne peut pas être la molécule mère de ces molécules prébiotiques, en tout cas des molécules qui pourraient avoir un intérêt dans l'apparition de la vie, éventuellement sur la Terre. Voilà ce qu'on apprend à partir des hétéroéléments. Où est le deutérium dans cette matière? Ça, c'est, ça a été un gros travail, c'est la thèse de Laurent Rémusa. On a combiné à la fois de la GCMS et de la spectrométrie de masse isotopique. Et ici, j'ai rapporté le rapport d'Essurage. Le rapport sur la Terre, c'est 150, hein, on prend généralement les zones mer comme référence, donc 0 pour 1000, mais ici, ce sont des rapports isotopiques. Donc ici, on a des variations d'un facteur 2, donc environ 1000 pour 1000. Et on s'est aperçu que dans la liaison benzélique, c'est-à-dire le CH2 qui est dans les pattes des aromatiques, c'était la plus riche en deutérium. Ensuite venait l'hydrogène aliphatique, donc l'hydrogène sous forme CH2 dans les chaînes. Ensuite, l'hydrogène aromatique, et on a reporté aussi l'eau. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on a une relation entre l'énergie de liaison, la liaison CH, et la teneur en deutérium. Mais que cette liaison, c'est l'inverse de l'intuition. Puisque plus la liaison CH est fragile, et plus elle est riche en deutérium. Hein. Donc on est obligé de conclure que cette matière organique a d'abord été fabriquée avec un rapport d'essurage assez faible, peut-être voisin de ce qu'il y avait dans la nébuleuse protosolaire, et que c'est ensuite qu'elle a été enrichie en deutérium, et pas l'inverse, car dans tous les modèles théoriques qui ont été développés ces dernières années, on prédit que, en fait, c'est le deutérium d'une matière interstellaire qui a été cédé à l'hydrogène protosolaire. Donc là, on a une contradiction entre des mesures et ce qui était généralement admis dans la littérature. Donc cette matière organique, elle n'est pas d'origine interstellaire, et donc inévitablement, il doit exister une source de deutérium dans le disque circumstellaire au moment de sa formation. Alors on a proposé quelque chose, mais c'est pas pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'évidence expérimentale et observationnelle de ça, mais éventuellement, la surface du disque est ionisée, les calculs des astrophysiciens le montrent. Elle est très ionisée, dans un milieu très ionisé, riche en hydrogène. L'ion le plus abondant, c'est H3+. Le transfert du deutérium à partir d'H3+, est très efficace. Et on sait que si on a des ions, on doit pouvoir échanger ces ions de façon très efficace aussi avec des grains. C'est des expériences qui sont en cours pour l'instant. Mais moi je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc ce serait une matière qui aurait été synthétisée dans le disque protosolaire et qui secondairement aurait été enrichie en deutérium, probablement par des réactions ion-molécules qui se sont déroulées à la surface du disque ou à la fin de la vie du disque circumstellaire. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans cette matière organique, il y a ce qu'on appelle des radicaux. Donc là, je vous refais une petite définition. Les radicaux, c'est simplement qu'il manque un hydrogène. Dans l'exemple que je donne ici, il manque un hydrogène. Quelquefois, il peut en manquer deux. Mais les électrons sont délocalisés au centre du cycle benzénique et ils se débrouillent pour se partager et pour satisfaire une électroneutralité d'une molécule comme celle-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les a détectés dans les météorites. On a même détecté des diradicaux qui n'existent pas dans les matières naturelles terrestres. Et apparemment, ces radicaux dans la matière organique des météorites est concentré dans des petites zones. C'est des zones micrométriques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la sonde ionique, à la sonde NanoSIMS, on a pu faire une cartographie, ça c'est une cartographie qui fait 20 microns sur 20 microns, du rapport D sur H. Et vous voyez ici ces zones ici qui ont été représentées en fausse couleur, qui sont des zones blanches, qui indiquent des zones où le rapport D sur H est très élevé. Et donc on pourrait penser que ces zones-là correspondent précisément aux zones qui sont riches en radicaux. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que ces radicaux, là aussi, ils viennent dans la corrélation avec la l'énergie de liaison. Les radicaux, c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Si vous les plongez dans l'eau chaude pendant 150 degrés en une journée, vous les avez effacés. Donc voilà une matière qui est extrêmement fragile, et c'est elle qui porterait le deutérium, ou en tout cas les grands rapports isotopiques qui sont mesurés dans la matière organique de ces météorites et qui sont totalement incompatibles, bien sûr, avec une origine de contamination terrestre. Et récemment, on a mesuré, par une technique, l'EPR, la résonance paramagnétique électronique, on a mesuré directement le rapport D sur H. C'est quelque chose qui a été fait par l'équipe de Didier Gourier à l'ENSCP. Et les premiers résultats montrent des valeurs D sur H dans ces radicaux de 10-2. Donc des enrichissements de 1000 par rapport à la nébuleuse protosolaire. Donc ça, c'est quelque chose qui nous restera à interpréter, mais qui était totalement... Enfin, on s'y attendait pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a ici des zones qui sont extrêmement enrichies en deutérium et qui signent des processus de réaction chimique entre probablement des ions molécules ou des molécules chaudes avec des atomes froids qui transfèrent le deutérium dans la nébuleuse protosolaire. Un dernier point, c'est... on va regarder là où il n'y a rien. Vous voyez, ici, il n'y a rien. Et on va regarder à cet endroit-là. Et cette matière organique, c'est une propriété qui est bien connue des chimistes organiques, mais moi je l'ai appris, on peut la gonfler. On la gonfle avec de la pyridine. Si on l'immerge dans la pyridine, on est capable de doubler la distance entre les feuillets. Donc c'est ce qu'on a fait, voilà le résultat, et c'était la thèse de Yves Marocchi au CRPG, c'était avec Bernard Marty. On s'est aperçu que quand on faisait gonfler cette matière organique, eh bien on relâchait 60% du xénon. C'est le xénon qu'on avait appelé, on ne l'appelle plus comme ça maintenant, mais il y a 25 ans, on l'avait appelé le xénon planétaire. Et c'est dans cette matière organique, en fait, qu'est piégée la quasi-totalité des gaz rares de la météorite. Et donc, ce xénon a été piégé avec la polycondensation de la matière organique. Bon, il en reste encore 20 ou 30% qui doit probablement être dans les cycles. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder en détail, mais ça n'a pas été fait. Mais il y a un simple piégeage mécanique qui vient du fait que cette matière s'est simplement condensée, et en se condensant, eh bien, elle a enfermé le gaz dans lequel elle se condensait. Donc il faut imaginer, ça ce ne sont pas des mesures, hein, c'est une imagination, que les atomes de xénon, eh bien, ils sont piégés dans les lacunes, il y a des grandes lacunes dans cette structure, dans cette architecture organique, et ils sont enfermés à l'intérieur, comme je l'ai dessiné ici, de cette matière organique insoluble. Donc je rappelle ce qu'on a appris. Il reste encore beaucoup de questions, mais je les soulèverai pas. On a appris que cette matière organique était certainement formée en phase gazeuse par aromatisation progressive des chaînes aliphatiques. On le sait, parce que ça, sinon, on verrait des grands massifs aromatiques et on ne les voit pas. Et on verrait probablement aussi de longues chaînes et on ne les voit pas. Elle est condensée à partir de la phase gazeuse. Ça, c'est la présence des 10 radicaux organiques. On les a reproduits en laboratoire par des condensations. On a simplement condensé de l'anthracite à 2000 K. Et ça marche très très bien. On reproduit et on est capable de fabriquer au laboratoire des radicaux organiques. C'était la première fois que c'était fait. Elle représente une distribution statistique de toutes les liaisons organiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de catalyseur. Ça veut dire que la nature se débrouille avec son carbone et ses hydrogènes pour saturer toutes les liaisons possibles et disponibles. Elle est condensée sur des grains, et ça on le sait, c'est à mon avis c'est quelque chose qui est incontournable, parce que sinon elle aurait été photolysée, et si elle avait été photolysée, toutes les petites unités aromatiques ne subsisteraient pas, elles auraient été détruites, elles sont détruites très vite, hein, en quelques heures de photolyse vous avez détruit les plus petites unités aromatiques. Elle a enfermé le gaz protosolaire, ça aussi c'est un fait. Le xénon dit planétaire est enfermé dans cette matière. Elle a subi une oxydation vraisemblablement secondaire, ça c'est dans le corps parent. Elle n'est pas la source des petites molécules prébiotiques, ça on le sait. L'azote n'est ni sous NH ni sous NH2. L'azote est sous forme CN ou C triple liaison N. Donc on peut pas faire d'acide aminé ou de petites molécules solubles à partir d'un azote qui a cette spéciation. Et finalement, le deutérium nous indique que vraisemblablement, cette matière organique n'est pas un produit interstellaire, mais a été enrichie en deutérium après sa formation dans le disque protostellaire. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre François Robert, directeur du laboratoire d'études des matériaux extraterrestres au Muséum national d'histoire naturelle, avec Gérard Manès, enseignant-chercheur à l'Institut de physique du globe de Paris. Intéressons-nous à la chronologie des météorites à l'aide des radioactivités de courte et de longue période. On l'écoute.
Je vais donc vous donner quelques informations sur le développement de la chronologie des événements qui se sont passés entre la condensation du gaz jusqu'à la formation des planétésimaux et leur évolution interne, ceci à l'aide des radioactivités de longue et de courte période. Je vous parlerai très rapidement des témoins. Ensuite, je vous parlerai des outils chronométriques. Je vous donnerai quelques exemples. On regardera un schéma chronologique tel qu'il est considéré comme valide à l'heure actuelle et j'évoquerai un certain nombre de sujets qui ont été et qui sont toujours d'actualité. Les témoins, on en a déjà parlé pour ce qui est des échantillons que l'on considère comme primitifs, les plus primitifs, c'est-à-dire ceux qui sont témoins des transformations dans la nébuleuse solaire primitive. Marche aussi, dont Guy Liborel en ont parlé. Il faut considérer que là, on a des témoins absolument exceptionnels et que s'il n'y avait pas eu ce type d'échantillon, on ne raconterait pas aujourd'hui des détails aussi précis que ceux qui ont été évoqués précédemment et que je vais évoquer aussi maintenant. Les deuxièmes témoins sont ceux de l'évolution interne des planétésimaux. Donc il y a une source de chaleur qui a différencié de façon très précoce des objets de la taille de la centaine de kilomètres. Vous avez ici un basalte avec, vous voyez ici, des vésicules. C'est un matériau qui est issu de la fusion d'un manteau, la fusion partielle d'un manteau silicaté, et c'est une lave qui a érupté à la surface d'un corps planétaire, et ceci il y a environ 4,55 millions d'années. Le fait qu'il y ait cette fusion très précoce amène à penser que ça ne peut pas être une source de chaleur classique telle que l'accrétion ou les radioactivités longue période qui sont impliquées dans le chauffage des planètes, en tous les cas des planètes internes. Le deuxième objet est une météorite de fer et de nickel que l'on considère comme le témoin du deuxième composant de ces différenciations planétaires, c'est-à-dire représentatif du noyau de ces petites planètes. Voilà pour quelques documents. Voyons maintenant les outils, donc qui sont constitués des radioactivités longue période et des radioactivités éteintes qui ont été évoquées précédemment par Marc Chaussidon et par Mathieu Gounel. Vous voyez ici la panoplie des radioactivités qui ont été mesurées depuis une cinquantaine d'années. Donc, vous avez des couples radioactifs avec des périodes relativement variables qui vont de 0,7 milliards d'années pour l'uranium plomb jusqu'à 100 milliards d'années pour le samarium néodyme. Il faut situer ces périodes de décroissance par rapport à l'âge du système solaire. Si vous prenez une radioactivité telle que le samarium, eh bien, elle aura décru de façon très faible durant les 4,5 milliards d'années, alors que si vous prenez l'uranium-235, qui a une période de 0,7 milliards d'années, c'est quasiment 99% de la décroissance qui a eu lieu pour cet élément. On peut noter aussi les précisions à l'heure actuelle qui sont sur la détermination des constantes radioactives, qui dans la plupart des cas sont de l'ordre du pourcent, ce qui veut dire que l'incertitude que l'on a sur les âges dits absolus, c'est-à-dire en référence par rapport à aujourd'hui, sont de l'ordre de la cinquantaine de millions d'années, avec une exception qui est encore une fois l'uranium-235 et l'uranium-238 qui sont déterminés beaucoup plus précisément. Si on compare ces périodes par rapport à celles des radioactivités éteintes qui ont été mises en évidence dans les météorites, ces périodes sont courtes. Elles vont, on l'a cité pour le barium 7 de 53 jours, jusqu'à celle du samarium qui est de 100 millions d'années. On ne peut pas détecter ces radioactivités par la présence, par leur propre présence, mais on les détecte par la présence de leur fils radiogénique. Alors l'intérêt d'avoir cette panoplie, elle est liée à la variété des propriétés à la fois cosmochimiques, c'est-à-dire les caractères réfractaires ou volatiles des éléments, et les propriétés géochimiques qui vont définir le comportement de ces éléments à l'intérieur des objets lors de la différenciation planétaire. Et donc ça va être des traceurs de ces différents processus. Et c'est cette variété qui est utilisée pour caractériser l'ensemble des processus qui sont impliqués pour la transformation des gaz et grains en planétisme. Quelques mots sur la détermination des âges, ce que l'on entend par âge absolu. C'est donc un âge qui est défini par rapport au temps actuel. Donc on a, à partir de la désintégration radioactive, on exprime cette désintégration en faisant apparaître le rapport isotopique normalisé à un isotope stable F' de l'élément fis, de l'isotope fis. C'est égal à la composition isotopique initiale du matériau au moment de sa formation et du produit de désintégration qui est exprimé ici, on fait apparaître la fonction chronométrique et le rapport chimique mesuré per surface. Vous voyez qu'ici, il manque, on n'a pas la connaissance a priori de la composition initiale pour déterminer l'âge. Pour avoir cette identification de la composition initiale, on fait appel à ce qu'on appelle des systèmes cogénétiques, c'est-à-dire des objets qui se sont formés à partir du même milieu source et à des instants identiques. Et si l'on porte, on analyse plusieurs systèmes comme ceci, et si l'on porte le rapport isotopique mesuré en fonction du rapport chimique mesuré, ces systèmes, s'ils sont cogénites, sont alignés. La pente de cet alignement donne la fonction chronométrique qui permet de caractériser l'âge, et d'autre part, l'ordonnée à l'origine de cet alignement permet de déterminer la composition initiale de ces objets, qui est aussi la composition initiale de la source dont ont été ces objets au moment où ils se sont formés. Alors, quand on entend par objet, c'est des choses très très différentes. Ça peut être des minéraux à l'intérieur d'une roche. On va dater les rééquilibrations à l'intérieur d'une roche. Ça peut être des échantillons d'un corps parent. Et donc là, on va regarder l'histoire thermique à l'intérieur de ces corps parents. Et ça peut être aussi des planètes, et on va comparer si ces objets planétaires sont cogénétiques ou pas. Une particularité qu'il faut mentionner, c'est le couple uranium-plomb 238 qui décroît en plomb 206, uranium 235 qui décroît en 206 et 238 en 206. Le couplage de ces deux décroissances radioactives qui impliquent des nucléides pairs appartenant au même élément et des nucléides fils appartenant au même élément permet, à partir des compositions isotopiques, de définir l'âge. En portant le rapport isotopique 207-204 ou l'isotope 204 et l'isotope stable du plomb en fonction du 206-204, des objets cogénétiques vont définir un alignement et la pente de correspondance à cet alignement définit l'âge qu'on appelle classiquement plomb-plomb et qui, par le fait qu'on mesure des compositions isotopiques et non pas, on ne fait pas appel à des rapports père-fils, sont définis beaucoup plus précisément. Donc nous allons voir maintenant, je vais vous montrer deux cas d'investigation chronométrique. L'une qui est l'âge, la détermination de l'âge du système solaire. Claude Allègre a rappelé tout à l'heure dans son introduction la première évaluation correcte de l'âge du système solaire qui a été par Claire Patterson en 1955, qui était donnée 4,55 à 70 millions d'années. En fait, lorsqu'on recalcule ces données avec l'évaluation des constantes radioactives actuelle de l'uranium, ceci correspond à 4,48. Donc l'âge, l'incertitude est 70 millions d'années. Je vais vous montrer que depuis 50 ans, on travaille dans cet intervalle, grosso modo, dans cet ordre de grandeur d'intervalle de temps. Et voilà les progrès qui, vous allez voir, ont été accomplis. Alors, aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est depuis une vingtaine d'années, on identifie l'âge du système solaire pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, en particulier par Marc Chaussidon, par l'étude des inclusions réfractaires dans les météorites carbonées. Vous avez ici une inclusion dans la météorite Allende, qui trace le processus de condensation dans la nébuleuse solaire primitive. Voici les travaux, le résultat des travaux sur à peu près 25 ans. Et vous voyez qu'on est passé d'une incertitude de l'ordre de 4 millions d'années à aujourd'hui à une incertitude qui analytique qui est de l'ordre de 200 000 ans. Donc, en travaillant sur les mêmes objets, le développement des progrès en spectrométrie de masse ont permis de gagner 2 ordres de grandeur associés au développement des procédures chimiques pour pouvoir permettre ces mesures isotopiques. D'autres propositions ont été faites récemment par un couplage de datation aussi plomb-plomb de matériaux d'origine magmatique, ici des angrites, avec des calages de radioactivité éteinte. Et ces propositions suggèrent des âges plus anciens, 4,56-8, 4,57-1. Bien évidemment, en fonction de ce que l'on a déjà dit tout à l'heure, il reste à valider, là, du point de vue géochimique, ces âges. De la même façon que la précision à l'heure actuelle de 200 000 ans, c'est une précision analytique, il ne faut pas considérer que ces âges sont absolument significatifs à présent à la précision analytique près. Et je vais dire tout le challenge de cette discipline, de, ayant défini des âges radiométriques, de les valider en termes d'interprétation chronométrique et d'âges significatifs. Je vais prendre un deuxième exemple fondé sur la radioactivité de l'hafnium-182 qui décompte en tungstène-182. C'est une radioactivité qui a été mise en évidence depuis simplement une dizaine d'années et elle présente beaucoup d'intérêt. D'une part, sa période de décroissance est de 9 millions d'années, donc c'est une très bonne échelle pour aller investiguer des événements qui se développent sur quelques dizaines de millions d'années. Par ailleurs, les propriétés de ces éléments hafnium et tungstène lui confèrent à cette chronométrie des possibilités de signer des événements tout à fait générales et tout à fait intéressantes. L'hafnium et le tungstène sont des éléments réfractaires, ce qui veut dire que très probablement, ils n'ont pas fractionné dans la nébuleuse solaire. Et donc, on peut s'attendre à ce que l'ensemble des planétésimaux, c'est-à-dire les corps parents des météorites, et incorporer ces éléments avec la même abondance. Et si on voit dans ce diagramme ici l'évolution à partir de la formation du système solaire, ce schéma porte l'isotope radiogénique normalisé à un isotope stable du tungstène. Et ici, l'échelle de temps qui est là en exponentielle, eh bien on peut penser que l'évolution de tous les planétésimaux se fait sur cette droite. Par ailleurs, du point de vue géochimique, l'hafnium et le tungstène ont des comportements très différents. L'hafnium est un élément lithophile, c'est-à-dire qu'il va s'associer facilement aux faces silicatées, tandis que le tungstène est sidérophile et donc va s'associer aux phases métalliques s'il y en a. Donc, lorsqu'on a une différenciation interne dans un objet planétaire de composition solaire, on va avoir d'une part un manteau silicaté qui va être enrichi en hafnium, donc l'évolution chronométrique va être avec des rapports hafnium-tungstène très élevés. On va obtenir rapidement des compositions très radiogéniques. Et à l'inverse, dans la partie métallique de ce manteau, donc dans le noyau, qui va être dépourvu d'hafnium, la composition isotopique va être gelée et va tracer le temps de différenciation. Voici donc un résumé de l'ensemble des travaux qui ont été obtenus dans cette dernière décennie. Et plusieurs équipes ont fourni l'ensemble des travaux. On peut constater, voici la composition des inclusions réfractaires donc, que l'on considère comme la composition initiale du système solaire en tungstène. Vous avez ici les eucrites qui sont représentatifs de la fusion du manteau à l'intérieur d'un corps parent. On établit ainsi que le volcanisme basaltique est inférieur à 4 millions d'années. Vous avez ici l'échelle de temps. Pour ce qui est de l'accrétion des planétésimaux, vous avez ici les variations qui sont en bleu, donc qui sont données par les chondrites, on l'estime inférieure à 3 millions d'années. Enfin, les météorites de fer dites magmatiques, c'est-à-dire dont on pense qu'elles sont issues effectivement de la différenciation, à l'heure actuelle, on les interprète comme traçant une différenciation qui est inférieure en tout cas à 2 millions d'années. Si vous voulez, il faut tenir compte dans l'analyse de ces météorites de fer des effets de spallation qui maintenant sont relativement bien compris et cet intervalle de 2 millions d'années considéré comme limite supérieure. Voilà quelques exemples. Donc, voici le schéma sur lequel on peut s'asseoir dans la mesure où l'ensemble des chronométries donne des informations consistantes dans les ordres de grandeur. La formation des chondres est de l'ordre de 2 millions d'années. Il faut considérer que cette information n'est pas un intervalle, mais c'est un domaine d'incertitude, c'est une contrainte. L'accrétion des planétésimaux est aussi de cet ordre-là. La différenciation des planétésimaux donne un intervalle de l'ordre de 1 à 10 millions d'années. Et l'évolution thermique interne des planétésimaux, c'est-à-dire le chauffage des chondrites ordinaires sans qu'il y ait fusion partielle et l'évolution interne des planétisomaux différenciés est de l'ordre de la centaine de millions d'années. Ceci est à comparer au temps de formation des planètes internes qui est du même ordre de grandeur. Donc on obtient un schéma qui était déjà envisagé depuis une trentaine d'années et avancé depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, il est confirmé, précisé dans toute cette partie d'accrétion et de différenciation, de début de différenciation des planétésimaux. Bien, maintenant je voudrais évoquer très rapidement les sujets qui sont d'actualité, mais qui ont toujours été d'actualité. C'est on obtient des âges radiométriques. Ces âges ne sont, bien pour les radioactivités longue période dite absolue, ne sont pas des âges, si vous voulez, qui sont indépendants d'un certain nombre d'hypothèses. Et donc la démarche est toujours de valider, d'interpréter ces âges. On a évoqué précédemment le calage des radioactivités éteintes avec le chronomètre absolu plomb-plomb. Il n'y a pas de cohérence globale. Je reprends ici un schéma que vous a présenté Mathieu, où l'on voit la chronométrie aluminium-26 par rapport à l'âge plomb-plomb. Vous avez ici différents objets. Vous avez des témoins des chondrites. Vous avez ici des produits issus de la différenciation planétaire, des basaltes, des chondres. Et ici, la référence, qui sont les inclusions réfractaires. Un schéma simple, si toutes ces deux chronométries étaient cohérentes, serait un alignement entre ces deux composants, qui trace la décroissance de l'aluminium 26. Alors, on peut évoquer différentes causes, les différences de température, de fermeture des systèmes dans les matériaux, des perturbations secondaires et l'hétérogénéité spatiale des radioactivités à courte période qui sont évoquées, ici l'aluminium 26. Il ne faut pas considérer que l'âge plomb-plomb est un chronomètre qui n'est pas affecté aussi par des perturbations et des différences de température, de fermeture à l'intérieur de différents objets. Cette échelle de temps ne doit pas être considérée à l'échelle de quelques millions d'années non plus comme un chronomètre absolument fiable. Un sujet qui est d'actualité depuis fort longtemps, c'est les intensités des chauffages qui est différent des planétésimaux. Donc là aussi, on a différentes causes possibles, la différence de temps et de durée d'accrétion, la distribution des radioactivités qui sont sources de chaleur la nuit en 26, fer 60, mais aussi les différences de temps d'accrétion et des distributions hétérogènes, donc où on mélangerait les deux paramètres. Enfin, dernier paramètre qui est important, c'est, et sur lequel on a peu d'idées, bien que l'on fasse évidemment des modèles, c'est la structure des corps parents. Est-elle préservée durant l'accrétion et durant l'évolution des 100 millions d'années de ces évolutions thermiques? Voilà un aperçu de l'apport de l'ensemble des radioactivités courtes et longues périodes. Je voudrais évoquer le futur. Le futur, ça sera d'appliquer ces méthodes sur de bons échantillons. Qu'est-ce qu'on entend par bons échantillons? Bien, il y a eu des chutes de météorites absolument exceptionnelles. Ici, vous avez la météorite d'Orgueil. C'est à partir de l'analyse chimique de cette météorite qu'on a fait la corrélation avec la composition du Soleil. C'est aussi avec cette météorite qu'on a suspecté que la teneur en fer déterminée à partir de la chromosphère solaire n'était pas forcément établie. Vous avez un siècle plus tard, cette météorite Allende qui a fourni les premiers témoins ou les témoins les plus anciens concernant la formation des premiers objets dans le système solaire. Donc si on veut envisager et si on espérait, si on croit dans cette évolution en temps, on pourrait envisager d'avoir un objet absolument exceptionnel dans un siècle. D'ici là, on a les missions d'astéroïdes qui vont permettre probablement de comprendre beaucoup mieux la structure et l'évolution des corps parents des météorites. Ici, vous avez la reconstitution de l'astéroïde Eros par la mission NIR. Bientôt, il va y avoir la rencontre proche d'astéroïdes Vesca et Ceres, qui sont parmi les plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes et pour lesquels on pense que ce sont des objets différenciés. Certains pensent, par exemple, que tout ce qui est des matériaux basaltiques sont issus en particulier de l'objet Vesta. Enfin, évidemment, l'idéal dans ce domaine pour les gens qui étudient la matière extraterrestre en laboratoire, c'est le retour d'échantillons. On peut envisager la mission Phobos-Runt, qui va aller investiguer le satellite de Mars Phobos que l'on pense être un astéroïde capturé et qui éventuellement pourra faire un premier retour d'échantillons d'astéroïdes.
Terminons cette émission avec l'intervention d'Anne Dutray, astronome à l'Observatoire de Bordeaux, pour évoquer cette fois la durée de vie des disques autour des étoiles jeunes.
En fait, on va s'intéresser aux disques protoplanétaires autour d'étoiles qui sont analogues au Soleil jeune. Et pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces objets qui ont typiquement un million d'années? C'est parce qu'on pense en fait qu'ils sont des analogues à la nébuleuse protosolaire. Et on les appelle disques protoplanétaires parce que il semblerait qu'ils contiennent dans ces phases-là, encore assez de gaz pour pouvoir former des planètes géantes. Alors ici, j'ai comparé l'échelle spatiale de notre système solaire avec ces disques protoplanétaires. Donc ce que vous voyez en haut, ici, c'est donc un disque protoplanétaire orbitant autour d'une étoile dans une région de formation stellaire à 150 parsecs de nous. Donc ce disque est en équilibre hydrostatique, donc c'est un mélange de gaz et de poussière. Il est essentiellement chauffé par l'étoile centrale, donc on a une surface plus chaude que le plan du disque, excepté dans la partie très très interne où en fait on a aussi chauffage du disque par dissipation visqueuse à cause de l'accrétion du gaz de la poussière sur l'étoile. Donc quand on observe ces objets, la partie externe du disque, vous voyez, ils sont quand même assez grands, ils font de l'ordre de 500 à certains en font de l'ordre de 500 à 800 unités astronomiques. La partie externe étant très froide, rayonne dans le millimétrique et le submillimétrique. C'est pour ça que depuis une quinzaine d'années, on les observe avec des interféromètres millimétriques et submillimétriques, et la partie chaude, donc centrale, est observée en optique, en particulier avec les interféromètres tels que l'interféromètre du VLTI. À l'ESO. Quand on compare donc les zones où se sont formées les planètes dans notre système solaire, on voit que ce que veut faire l'astronome, c'est comprendre peu à peu les propriétés physiques, disons, de cette zone-là qui correspond à notre système solaire interne, qu'on peut appeler disque interne et qui correspond grosso modo au disque avec un rayon de 20 à 30 unités astronomiques. Donc, parmi les résultats récents qui montrent qu'on commence maintenant à sonder vraiment les régions qui sont relatives, par exemple, aux météorites qu'on vous a présentées précédemment, il y a ces très beaux résultats de l'interféromètre MIDI, donc, qui fonctionne à 10 microns, l'interféromètre du VLTI, où là, vous avez observation dans trois disques protoplanétaires de la bande des silicates, des grains de silicates à 10 microns. Ici, donc, vous avez le spectre interne, donc dans les deux unités astronomiques centrales, observées avec MIDI. Ici, vous avez le spectre dans ces mêmes objets, dans ces mêmes disques de la partie extérieure. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le profil est différent. Ici, en fait, on commence à deviner les trois bandes des silicates cristallins qui sont données en position ici, alors que la partie externe du disque présenterait des silicates ayant plutôt un profil caractéristique des silicates amorphes que l'on rencontre dans le milieu interstellaire. Conclusion, on voit donc des processus physico-chimiques en action qui font changer les propriétés, donc la minéralogie des silicates, des zones internes des disques, des zones externes aux zones internes. Et on peut effectivement penser que ces grains seraient les précurseurs des météorites et des IDPs qu'on vous a présentés précédemment. Donc quelques points clés à retenir quand on veut étudier ces disques, ce sont des disques riches en gaz et en poussière, avec des rapports gaz sur poussière, on pense être de l'ordre de 100, des tailles caractéristiques de plusieurs centaines d'AU, qui sont donc déjà pas si négligeables que ça, et des masses de l'ordre de 10-2 masses solaires. La première question qu'on s'est posée, bien entendu, c'est de comprendre la dynamique de ces disques. Alors pour ça, les interféromètres millimétriques, et en particulier celui de l'IRAM, grâce à la spectro-imagerie, nous apprend que la plupart de ces disques sont en rotation keplérienne. Donc je vous montre un exemple ici. Donc ce que vous voyez ici, c'est disque de gaz, donc c'est l'observation du monoxyde de carbone dans la raie de rotation J égale 1,0, observé avec l'IRAM, autour d'une étoile Tétori qui fait 0,5 masse solaire. Et donc ici, vous avez un résultat typique de spectro-imagerie, vous avez donc l'émission d'un canal de vitesse à un autre canal de vitesse du CO dans ce disque. Vous avez donc ici les meilleures données. Ici, vous avez le meilleur modèle qui est ajusté sur ces observations, parce que maintenant, on arrive à modéliser ces disques en termes de densité, de loi de vitesse, de température. Et ici, vous avez la différence entre les données et le meilleur modèle. Et vous voyez, donc, on commence par ces méthodes qui commence à se mettre au point depuis une dizaine d'années, à réellement contraindre la physico-chimie de ces objets, au moins ici en ce qui concerne ce qu'on peut appeler le disque externe, c'est-à-dire au-delà de 30 unités astronomiques. C'est en particulier cette méthode qui a permis il y a quelques années la confirmation du gradient vertical de température du plan médian, qui est donc froid, qui fait typiquement 10 Kelvin à peu près un rayon de 100 unités astronomiques, alors que la surface du disque serait plutôt à 30 voire 40 Kelvin. Donc on commence maintenant à avoir les moyens de contraindre non seulement la cinématique de ces objets, de ces disques en rotation keplérienne, mais aussi la physico-chimie. Revenons un peu à la durée de vie de ces disques. Ici, vous avez un diagramme qui vous a déjà été présenté par Thierry Monmerle ce matin et qui en fait est tiré d'observations infrarouges qui sondent donc la partie chaude des disques, ce qu'on peut appeler les disques internes. Il s'agit de l'émission de la poussière. Et on voit donc effectivement, comme a dit Thierry, qu'au bout de 3 à 5 millions d'années, seulement 30% des étoiles vont avoir en fait encore des disques. Tout se passe comme si donc c'était un phénomène de dissipation brutal. Alors bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est puisqu'on a vu que ces disques étaient relativement étendus jusqu'à plusieurs centaines d'unités astronomiques, est-ce que la dissipation est simultanée dans le disque entre la partie interne, la partie externe? Est-ce qu'elle est simultanée entre le gaz, la poussière? Et pour ça, donc, il faut utiliser plusieurs traceurs de l'infrarouge proche au domaine millimétrique. Un certain nombre de personnes, donc, se sont intéressées à faire des comparaisons entre le gaz, la poussière, entre la partie du disque externe et interne. Et la conclusion aujourd'hui aurait tendance à dire qu'en fait, il n'y a pas clairement de point clé annoncée. En fait, je crois qu'il faut être honnête et reconnaître qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment répondre clairement à cette question par manque de statistiques au niveau des observations. Bien entendu, ce problème de la dissipation des disques est crucial si on veut comprendre comment on forme les planètes. La première question qu'on peut se poser, au niveau aussi des astronomes, c'est le démarrage de la phase de formation planétaire. On part d'un milieu où les grains sont des grains de taille submicronique avec une certaine distribution, mais disons essentiellement submicronique, et on va arriver à des grains dans les disques, on va arriver à former des planétésimaux. Donc la première question qui va se poser, c'est quand est-ce que ces grains grossissent, à quelle vitesse? Est-ce que c'est dans les phases de disques ou bien est-ce que c'est dans les phases plus jeunes que les disques tels que ceux que je vous ai déjà présentés? Il semblerait en fait, aujourd'hui on a des réponses apportées par des observations de l'interféromètre de l'IRAM en particulier, qui montrent que les grains que l'on observe dans les disques protoplanétaires et même dans les phases plus jeunes, donc de proto-étoiles, correspondraient à des grains qui ont grossi jusqu'au millimètre, voire le centimétrique, au moins pour une fraction d'entre eux. Le deuxième point, quand on parle de durée de vie des disques, c'est de dire, bon, alors, bien sûr, la formation planétaire est un des scénarios qui doit aider à dissiper ces disques, mais est-ce que la dissipation de ces disques est toujours liée à la formation des planètes? En fait, Thierry Monmerle vous a montré ce matin, dans la très belle simulation de Matthew Bates, que l'on peut avoir des troncatures externes des disques par rencontre proche d'étoiles, ce qui arrive bien évidemment, parce qu'on a vu, on sait maintenant que ces disques, ces étoiles se forment dans des amas plus ou moins serrés. Donc ça, effectivement, ça va produire dynamiquement une troncature de ces disques. Un autre phénomène qui est à prendre en considération est en fait la photoévaporation des disques. Donc je vous explique dans le transparent suivant comment ça marche qualitativement. Donc vous avez une région dense, disons un disque protoplanétaire, qui est soumis à un flux UV extrêmement intense, par exemple le flux UV d'étoiles chaudes OB, telles que celles que l'on observe dans la nébuleuse d'Orion, qui est donnée ici, représentée ici quelques objets. Donc sous l'effet de ce flux UV intense, le flux UV va ioniser l'hydrogène, on va avoir création d'un front d'ionisation, et le matériel très chaud va se répandre dans le milieu. C'est très exactement ce que l'on observe dans ce qu'on appelle les proplids. Ici, vous avez un montage à partir d'observations du HST dans la nébuleuse d'Orion. Donc ici, ce que vous voyez, c'est le disque protoplanétaire et vous voyez le front d'ionisation et vous voyez cette traînée qui correspond à la partie photoévaporée. Vous avez ici un front d'ionisation et de la même façon, vous voyez la partie photoévaporée. On comprend que ce mécanisme, dans une moindre mesure, peut aussi jouer pour la partie extrêmement interne des disques à partir du flux UV, certes moins intense, des étoiles Tauri sur le disque. Et de cette façon-là, on comprend qu'un des mécanismes qui pourrait aider à la dissipation interne des disques serait en fait la création d'un vent de disque. Donc ces mécanismes font partie des mécanismes qu'il va nous falloir dans les prochaines années arriver, je dirais, à observer et à contraindre via l'observation de plus en plus précise de ces objets. Ici, je vous présente un résultat récent obtenu avec l'interféromètre de l'IRAM. En fait, on a observé deux étoiles de l'ordre de 5 millions d'années, donc des disques déjà assez âgés. Ici, vous avez une étoile qui fait deux masses solaires, là, vous avez une étoile qui fait une masse solaire. Et ce que vous voyez là, c'est donc deux disques inclinés le long de la ligne de visée. C'est le disque de poussière observé à 1,4 mm de longueur d'onde. On voit en fait à la résolution de l'interféromètre qui était à peu près de 60 unités astronomiques ici, que le disque de cet objet est très piqué au centre. Par contre, et on voit très bien le pic. Alors par contre, ici, on n'a pas une distribution de matière piquée au centre, mais on a l'impression d'avoir une distribution de matière en anneaux. Effectivement, l'analyse des données montre que le disque de LKCA15 possède en son centre une cavité interne de l'ordre de 50 unités astronomiques de rayon. Et il n'est pas exclu que cette cavité pourrait être créée par un compagnon de relativement faible masse, disons de l'ordre de 10 masses de Jupiter. Alors, pourquoi est-ce que je mentionne ces deux observations? Parce que jusqu'à récemment, ces deux objets étaient considérés comme des étoiles simples, c'est-à-dire qu'en fait, on ne s'attendait pas à trouver une telle cavité autour de ces objets-là. Il n'y a pas, a priori, de caractérisation de comme quoi cet objet est binaire. Un autre moyen aussi d'investiguer les propriétés physiques de ces disques, c'est d'observer, par exemple, ici, vous voyez le système de HH30, qui est donc observé par la tranche. Ce que vous voyez ici, là, c'est donc les petites particules de grains à la surface du disque qui diffusent la lumière stellaire. Et de façon surprenante, donc, c'est un montage qui contient des observations faites avec le HST entre 1995 et 2002. Autour de 0,5 micron, et on voit que la brillance de surface évolue avec le temps. Donc quand on a vu ce résultat, la question bien sûr a été de se poser du mécanisme qui expliquait cette différence temporelle. Aujourd'hui, l'explication la plus probable avancée, vu les échelles de temps qui sont de l'ordre de l'année, des mouvements qui sont de l'ordre de l'année, c'est qu'on aurait des grumeaux dans la distribution de matière, donc des inhomogénéités, dans la distribution de matière, qui font que la lumière diffusée à plus grande échelle, en fait, provoque cette ombre portée que vous voyez, et donc ce changement dans la distribution de la lumière diffusée. Donc, on voit qu'on a maintenant les moyens de sonder, certes de façon indirecte, mais de commencer à comprendre les propriétés de ces disques internes, dans la région où on s'attend à former des planètes. Ce disque, qui est extrêmement fameux parce que, justement, étant vu par la tranche, il permet de bien comprendre la structure verticale de cet objet, a été aussi observé avec l'interféromètre de l'IRAM, là avec une résolution angulaire de l'ordre de 80 unités astronomiques. Vous voyez ici, en fait, l'émission de deux canons en vitesse de l'émission de 13 CO, de 1. On s'aperçoit, en fait, que le disque de gaz est parfaitement aligné avec le disque de poussière. D'ailleurs, à partir de ces observations, on démontre que le disque est en rotation keplérienne. Et ce que vous voyez ici, à 1,4 mm, c'est donc l'émission thermique de la poussière. Alors quand on superpose cette émission thermique de la poussière à 1,4 mm avec les observations du HST, on est un petit peu déçu parce qu'on se dit, on voit un joli blob, mais on a du mal à comprendre comment on va pouvoir remonter à une vision globale des propriétés physiques parce qu'on manque de résolution. Ces observations datent de 1997 et pour illustrer maintenant la puissance et l'avancée instrumentale qui se fait dans notre domaine, vous avez ici les observations de 97 effectuées avec une résolution de 70 unités astronomiques dans la meilleure direction. Ici, vous avez une carte toujours du même objet observée à 1,3 mm 10 ans après, donc début février 2007 avec l'interféromètre de l'IRAM où on voit très clairement que l'émission des grains de poussière qui émettent dans le millimétrique sont en fait le long de la bande sombre qui caractérise donc la partie dense et froide du milieu, tandis qu'on voit en optique la partie chaude du disque. Ce type d'observations sont extrêmement prometteuses parce que c'est à partir des analyses couplées des propriétés optiques, des observations optiques et des observations radio avec une excellente résolution angulaire, puisque vous voyez que là on a une résolution angulaire de l'ordre de 40 unités astronomiques, que l'on va pouvoir commencer à comprendre en particulier comment les particules de poussière ont pu se coaguler et surtout ont pu se sédimenter en tombant le long du plan du disque. Ce que l'on voudrait mettre en évidence maintenant, et c'est la prochaine étape, c'est comprendre en fait comment on va passer de petites particules, avoir la distribution spatiale des particules le long de la verticale. Ici, des petites particules et caractériser ici les plus grosses particules. Et ça, c'est donc le travail de demain des astronomes. qui s'intéresse à la formation des planètes. Alors, les grandes questions de demain, je pense que le premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier, quand on étudie ces objets, de toujours avoir en tête la connexion qui est fondamentale avec le milieu ambiant d'origine, ce que nous, on appelle le nuage parent où s'est formée l'étoile. L'autre point, et je l'ai, je pense, bien illustré par l'exemple précédent, c'est de montrer la nécessité d'avoir une approche multi-longueur d'onde, parce que des observations à des longueurs d'onde différentes vont nous permettre d'avoir une approche complémentaire et d'avoir une vision globale des processus physico-chimiques. Je pense que les questions auxquelles les astronomes vont essayer de répondre dans les 10 prochaines années sont pour moi les suivantes. La première, qui paraît banale, mais qui est absolument, je dirais, cruciale, c'est d'estimer réellement correctement la masse de gaz et de poussière en fonction du rayon et de l'altitude au-dessus du plan du disque, donc avoir la structure de ce disque dans une fraction, dans un nombre d'objets significativement, statistiquement significatifs. Il faut voir que c'est à partir de ce type d'observation et de statistiques d'un nombre d'observations conséquents de ce type d'objets, qu'on va pouvoir aussi fixer les temps de formation des premiers planétésimaux, comprendre le grossissement des grains, comprendre éventuellement la sédimentation verticale, et à partir de là se poser la question du temps de formation des premières planètes. Et bien sûr, la question qui vient ensuite, qui est corrélée au temps de formation des premières planètes, c'est aussi comprendre plus en détail les mécanismes de dissipation des disques, aussi bien de gaz que de poussière. Pour cela, bon, je dirais que quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, il y a à peu près une quinzaine d'années, on avait des résolutions angulaires de 300 unités astronomiques. Aujourd'hui, je vous ai montré au moins un exemple de l'interféromètre de l'IRAM, où on voit qu'on a des résolutions angulaires de 30 unités astronomiques, ce qui signifie qu'on a fait un bond considérable. On commence à sonder la taille de notre système solaire. Et avec des instruments tels que l'interféromètre submillimétrique ALMA, qui va entrer en opération début 2010 à Charnantor au Chili, on arrivera rapidement à sonder des tailles caractéristiques de l'ordre de 3 unités astronomiques. Et à partir de là, je pense que d'ici 10 ou 12 ans, on aura réellement apporté des contraintes fortes au modèle de formation planétaire. Je vous remercie.
C'est la fin de cette deuxième partie d'une série de 4 retransmissions du colloque de l'Académie des sciences sur la formation du système solaire. Il avait lieu en février 2007 à l'Institut de France. Le dernier intervenant, ou plutôt intervenante, Anne Dutray, s'exprimait sur la durée de vie des disques autour des étoiles jeunes. Nous vous invitons à poursuivre l'écoute de ce colloque pour tout savoir sur le contexte astrophysique de la naissance du système solaire, sur la formation des planétésimaux aux planètes et terminé sur le futur des missions d'exploration du système solaire, des émissions en libre téléchargement sur canalacademy.com. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles émissions.